C'est maintenant et c'est pour vous sur Radio Nîmes 92.2.
Amis auditeurs et auditrices de Radio Nîmes, Louis Napoléon et Eugénie se tournent autour. Louis est un vrai prédateur de femmes, mais la petite Montijo est-elle une biche sans défense ? Le 18 décembre, alors que Eugénie et sa mère étaient invitées à Compiègne, Louis s'introduisit de nuit dans la chambre de l'objet de ses désirs et dut en repartir la queue basse lorsque la jeune femme eut été réveillée par ses attouchements. Le poisson était ferré, au-delà de toute espérance. Une promenade dans le parc fut acceptée et le lendemain dans la soirée, la jeune femme se vit gagner dans une loterie truquée tout exprès, un bijou fabriqué lui aussi tout exprès, imitant à la perfection un trèfle étincelant de rosée aperçu la veille. Coucher avec Eugénie était devenu une obsession. L'épouser pour y parvenir, une idée désormais mûrie, confirmant ce que la princesse Mathilde avait prédit, à savoir que Louis convolerait avec la première qui ne lui ouvrirait pas son lit. Ayant déclaré lors d'une partie de cartes qu'elle voulait tout ou rien, Eugénie se vit poser sur son front une couronne de violettes par l'empereur. Les dés étaient jetés. Restée à convaincre Miss Howard et surtout à récupérer chez elle billets et lettres très compromettants, il avait promis à sa future épouse qu'il ne verrait plus l'anglaise, mufle jusqu'au bout. Il proposa à celle à qui il devait tout, une indemnité, un titre de comtesse, un château. Il fit allusion aux lettres à restituer et suggéra des épousailles avec un mari français. Toutefois, les visées des dames Montijo se trouvèrent contrariées et, par le mépris que certains et certaines vouaient à Eugénie, considérée comme une aventurière, ainsi que par les objections des proches de l'empereur lui affirmant que la Montijo n'était pas digne de monter sur le trône impérial et qu'il n'avait pas risqué plusieurs fois sa vie et celle de ses soutiens pour se commettre avec cet Espagnol. Tandis que Napoléon, sous pression de son entourage, objectait qu'il était amoureux, Eugénie et sa mère se morfondaient sans nouvelles de Louis et envisageaient de quitter la France. Lors d'un bal le 12 janvier, les dames Montijo durent encore essuyer des humiliations de l'entourage de l'empereur, mais ce dernier vint à leur secours, les plaça au milieu des membres de sa famille, et après plusieurs quadrilles, Napoléon entraîna Eugénie dans son cabinet et écrivit une lettre à l'attention de la mère sollicitant la main de la fille. Le courrier était confidentiel, mais les valets se chargèrent de le rendre public. Et tandis que le tout Paris se réjouissait ou criait au scandale d'État, Napoléon peaufinait sa science amoureuse en compagnie d'une danseuse de l'opéra experte en raffinements amoureux les plus raffinés afin d'accomplir des prouesses lors de sa future nuit de noces. Restait à présenter la chose à Harriet. Après l'avoir comblée physiquement, il lui proposa une mission de confiance et de haute importance. Il s'agissait d'éteindre un scandale alimenté par un maître chanteur britannique et il fallait partir pour Londres sans tarder en compagnie de Jean Mocquard, le chef de cabinet de l'empereur. Miss Howard ne se fit pas prier et le lendemain prit la route pour le Havre. Napoléon pouvait tranquillement annoncer officiellement ses fiançailles au corps constitué en présentant Eugénie comme le choix idéal d'une naissance élevée, sans famille en France à qui octroyer des titres, pieuse, catholique, bref, la perle rare. Les dames Montijo s'installèrent donc à l'Élysée. Eugénie envoya à sa sœur une lettre où elle avouait son amour et son admiration pour Napoléon et sa crainte de ne pas être à la hauteur des grandes reines qui l'avaient précédée. Et tandis que Napoléon, le 23 décembre, se levait tout guiré et content de lui, à 200 km de là, dans cette auberge du Havre cinglée par la pluie, Harriet, ayant acheté un journal pour tuer son attente, découvrait, barrant la première page, l'annonce des fiançailles de l'empereur et de l'Espagnol. Passé les pleurs et l'immense chagrin d'avoir été éloigné sur un mensonge de plus, Miss Howard ordonna un retour immédiat sur Paris, accompagné par le chef de cabinet qui voyait poindre un orage qui ne devait rien à la météo. Parvenue à son domicile rue du Cirque, elle fit transmettre à l'empereur qu'il allait avoir de ses nouvelles sous peu et franchit le seuil d'une demeure mise à sac par la police de Louis. Fauteuil éventré, meubles renversés, tiroirs tirés et vidés au sol, garde-robe visitée avec lacération des fourrures, saccage des dentelles, boudoir aux serrures fracturées, tiroir du secrétaire fracturé lui aussi. Et là, tandis qu'elle inventoriait ses bijoux intacts, elle comprit. Les lettres, Le courrier intime échangé avait été dérobé par une opération de basse police sur ordre de son amant, ou plutôt sur l'ordre de l'aventurier sans le sou qui lui devait son élection de député, son poste de président de la République, son titre d'empereur, l'homme infidèle pour qui elle avait sacrifié la fortune de son major. Elle fit porter au malotru un courrier réclamant une audience immédiate et Napoléon III se présenta mi-figue, mi-raisin. Elle lui mit le journal sous le nez et ajouta que ses lettres dérobées, elle se fût laissée assassiner plutôt que de les rendre. Puis elle lui tendit une liste avec 4 clauses qui attendaient une réponse le lendemain.
On se parle, on partage, on comprend, on apprend, on se détend. Radio Nîmes.
To be only you.
Le premier point était le choix d'un conjoint. Ce serait un Anglais. Le second point était le lieu de résidence. Ce serait le château de Beauregard et ses dépendances, fermes et haras, plantées sur 184 hectares qu'elle avait acquis en Seine-et-Oise un an plus tôt. Le troisième était un titre de comtesse transmissible à son fils. Le maintien de la garde des enfants que l'empereur avait eu avec sa blanchisseuse était un point supplémentaire. Napoléon souscrivit aux quatre exigences, ajouta au titre de comtesse de Beauregard celui de dame de Bel et Bas, promit une carrière diplomatique au fils d'Henriette. Le 29 décembre au soir, le mariage civil était célébré. Le 30 au matin, l'archevêque de Paris les déclarait unis à Notre-Dame. Le 31, Henriette faisait ses adieux à Napoléon. Un pan de leur vie appartenait désormais à l'histoire, tandis que dans les rues de la capitale, des épigrammes peu flatteurs pour Eugénie fleurissaient. Les persifleurs ignoraient que celle qu'ils prenaient pour une horizontale, si elle avait les charmes et la rouerie d'une courtisane accomplie, était inexpérimentée face à un héros-ottoman aussi averti que l'empereur des Français. En conséquence, ce dernier fut dépité par une nuit de noces espérée inoubliable et qui se révéla bien terne, sa partenaire n'étant pas la Messaline attendue. Curieusement, malgré une absence de satisfaction de ses appétits, Napoléon divertissait son épouse au moyen d'anecdotes, de tours de magie et d'expériences de physique, tandis que cette dernière s'évertuait à faire de son mieux, prenant des leçons de maintien auprès d'une tragédienne, et pas n'importe laquelle, la fameuse Rachel au charme et à l'insolence de laquelle l'empereur avait goûté. À l'opposé de cette application à bien faire de l'impératrice, Napoléon se laissait aller à la tutoyer, à l'appeler Eugénie, à multiplier les histoires grivoises et les anecdotes salaces, installée aux Tuileries, Eugénie tranchée par sa pudibonderie et son peu de goût pour le sexe, avec l'esprit de gaudriole qui régnait, tandis que son époux qui lui était resté fidèle 6 mois s'était remis en chasse. Eugénie, très consciente de sa beauté et peu portée sur le sexe, était à 100 lieues de soupçonner quelque infidélité. Napoléon se loua une garçonnière et y consomma tout ce qui attisait sa concupiscence. Le démon de midi poursuivait l'empereur, qui hasarda un soir une main aventureuse pour trousser une jupe sur un canapé, s'attirant les foudres de l'évêque de Nancy qui s'y était assoupi. Napoléon se permit même de renouer avec Henriette, notre voyageuse du Havre, au grand dam d'Eugénie. Miss Howard prenait sa revanche et soutirait des sommes importantes à l'empereur pour prix de son silence. Elle s'ingéniait à se placer sur la route des époux, à saluer l'impératrice qui écumait de rage, et même à convier Napoléon au château de Beauregard pour quelques fantaisies sexuelles débridées, en le faisant grimper et se changer dans sa berline. Finalement, Eugénie ayant interdit son lit à l'empereur qui ambitionnait de se fabriquer un héritier, il fallut intimer à Miss Howard de s'en retourner en Grande-Bretagne. Elle s'exécuta, mais Eugénie non seulement ne donna pas naissance au petit prince espéré, mais fit une fausse couche. Du coup, Napoléon reprit ses assauts de demoiselles peu farouches et Miss Howard fit un retour remarqué rue du Cirque. Alors Eugénie choisit de convier chaque nuit Napoléon dans sa couche pour la bonne cause, mais il y eut à nouveau fausse couche et l'impératrice étant jugée tout à fait apte à procréer, on commença à murmurer que l'empereur, du fait de sa vie de patachon, était peut-être responsable de ses échecs. Miss Howard, entre-temps, lasse de se voir à nouveau délaissée, était devenue Mrs. Trelawney. En politique aussi, les nuages s'accumulaient. Napoléon l'avait dit et juré avant son couronnement, l'Empire c'était la paix. Le tsar lorgnait sur Constantinople. La Prusse et l'Autriche ne bougeaient pas. Les flottes françaises et anglaises, postées à Salamine, entreraient en mer Noire si besoin s'en faisait sentir, les Anglais souhaitant garder la maîtrise de la route des Indes. La destruction d'une flottille turque entraîna une déclaration de guerre à la Russie. 30 000 soldats français, 25 000 soldats anglais faisaient route vers la Crimée. Eugénie, se sentant souffrante, était avec l'empereur à Biarritz où les distractions et les jeux de société, pas toujours innocents, se succédaient. Tandis que Napoléon rencontrait à Boulogne le prince Albert, époux de la reine Victoria, Eugénie, s'adonnant au spiritisme, interrogeait les esprits sur la guerre de Crimée sans recevoir de réponse concluante. Elle rejoignit l'empereur à Bordeaux, puis ils remontèrent sur Paris où ils s'évertuèrent à nouveau et sans succès à fabriquer un héritier. Amis auditeurs et auditrices de Radio Nîmes, le couple impérial s'épuise à tenter de fabriquer un prince. Il va faire connaissance avec un couple royal qui, lui, ne connaissait pas ses problèmes. Nous le découvrirons lors de notre prochaine rencontre.
I remember a time when the bloom was on the cotton, when our hearts chased the clouds like the swallow on the wing, when our cares, which were already few, were soon forgotten, just sitting on the front porch swing. Oh, we'd sit every Sunday and watch the married ladies, and we'd dream of white dresses and church bells in the spring, and they'd talk and paint their nails while they let us hold their babies, sitting on the front porch swing. Where was I when the time came to join the married ladies? Why did I paint the nail when the finger had no ring? Why do I sit at my age and long to hold their babies, sitting on the front porch swing? When the mind longs to follow, but the memory erases, and the lips form the words, but the heart no longer sings, when the leaves in the hollow have been dyed to match our faces, sitting on the front porch swing. Oh, we'll dream of the time when the bloom was on the cotton, when our hearts chased the clouds like the swallow on the wing. But the words to the rhyme are not the only things forgotten, sitting on the front porch swing, sitting on the front.